With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
C'est en boîte de nuit que Marie-Charlotte et son copain ont pris la décision de devenir parents. Après avoir quand même revalidé ce choix le lendemain matin après la fête, il faudra attendre 8 mois avant que le test affiche positif. Une première grossesse parfaite, Marie-Charlotte envisage un accouchement sans péridurale, mais sans avoir fait aucune préparation. Le jour J, c'est donc avec un grand soulagement qu'on lui injecte enfin le produit pour apaiser ses douleurs. Devenue maman d'un petit garçon, elle fait ses premiers pas dans la maternité, et comme elle a toujours voulu avoir des enfants rapprochés, Marie-Charlotte retombe enceinte. Cette deuxième grossesse est tout aussi parfaite, mais cette fois-ci, elle est bien décidée à voir son accouchement physiologique. Alors elle s'informe, se prépare pour le grand jour, pour accoucher à la maternité sans péridurale. Sauf qu'on a beau tout préparer, les accouchements ne se passent pas toujours comme prévu. Et c'est seule avec son mari dans la baignoire de chez elle que Marie-Charlotte va donner naissance à son deuxième bébé. Une expérience ultra puissante, teintée de rouge et de touches d'humour qu'elle nous raconte dans cet épisode. Bonne écoute.
Bonjour Marie-Charlotte.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci à toi de m'accueillir ici.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman de 2 enfants. Quel âge ils ont ?
Alors Victor a entre 2 ans et demi et 3 ans et Alice vient d'avoir 11 mois.
D'accord. Alors on va revenir au tout début. Toi, avant de devenir mère, est-ce que tu avais toujours eu ce désir justement de d'élargir ta famille avec des enfants, de devenir maman?
Oui, je me suis toujours mis en tête d'être maman avant 30 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi, je m'étais fixé ça et mon idéal, c'était même d'être maman à 27 ans. Je voulais exactement reproduire le schéma dans lequel j'avais vécu. Ma maman était devenue mère à 27 ans. Elle a eu d'abord mon frère, donc un petit garçon, et ensuite moi, donc on est 2. Avec 2 ans d'écart, et je trouvais que c'était absolument parfait, et je voulais absolument reproduire ça. Donc c'est ce qui s'est quasiment exactement reproduit pour moi, sauf que j'ai eu Victor à 29 ans. Donc, bon, 2 ans après les 27, mais toujours avant 30 ans. Donc je savais quand même que la maternité, c'était fait pour moi.
Ouais. Comment est venu le sujet au sein de ton couple ?
C'est venu assez naturellement en allant chez des amis, précisément, qui étaient déjà parents. Et leur petite fille adorable. J'ai eu un énorme coup de cœur pour leur petite fille. J'adorais passer du temps avec, m'en occuper. Et je pense que c'est le désir de maternité s'est révélé à ce moment-là. Et on était précisément en soirée, en boîte avec des amis. Quand mon conjoint et moi, on en a discuté, on a pris la décision, on s'est dit, allez, c'est à notre tour, on essaie. Et bon, le lendemain matin, j'ai quand même vérifié s'ils se souvenaient de la décision. Et donc voilà, c'est parti de là.
Et alors, une fois que la décision a été prise, est-ce que tu as réussi à tomber enceinte assez rapidement ou ça a mis du temps ?
Ça a mis... Alors, tout est relatif, mais une fois que la décision est prise et qu'on se focalise dessus, pour nous, ça a mis du temps. Ça a mis 8 mois. Okay. Donc, voilà, chaque nouveau mois entamé était une déception, évidemment, quand on ne pense plus qu'à ça. On a trouvé le temps long et finalement, c'est venu naturellement au bout de 8 mois.
Tu avais des amis qui avaient eu une attente aussi avant de tomber enceinte ?
Non, justement. Tous les couples d'amis autour de nous, ça venait généralement du premier coup au bout de 2-3 mois. Donc, ça commençait à devenir un petit peu psychologique pour nous.
Oui, alors la bonne nouvelle arrive enfin. Comment tu as vécu cette première grossesse ?
Déjà, l'annonce de la La grossesse était vraiment très très émouvant. On était forcément, plus l'attente est longue, plus la surprise et la joie est grande et immense. Et j'ai entamé une grossesse absolument parfaite. J'ai vraiment pas eu à me plaindre. J'ai eu très peu de maux de grossesse, quelques inconforts, mais globalement ça a été 9 mois de joie intense, de bonheur, et vraiment ça a été super, à tel point que voilà, je savais que je serais enceinte, enfin j'avais ce désir d'être enceinte à nouveau de manière assez rapprochée en suivant. Je voulais vraiment revivre ça. Ça a été vraiment super. 9 mois très très agréable.
Et alors, est-ce que tu t'es renseignée pendant ces 9 mois sur toute la grossesse, l'accouchement, la maternité, le postpartum ? Est-ce que tu as fait des recherches particulières ou tu t'es laissée porter un petit peu par tout ça ?
Je me suis renseignée de manière assez sommaire, on va dire. Mon idéal était d'accoucher de manière naturelle, physiologique, sans péridurale. Je dis bien mon idéal parce que je me suis pas justement préparée à un accouchement physiologique. Parce qu'on a beau se dire j'aimerais ne pas avoir de péridurale, quand on souhaite réellement rester maîtresse de son corps pendant l'accouchement, je pense qu'il faut vraiment avoir une préparation spécifique et être extrêmement renseignée. Et je sais que j'ai glané des informations, mais pas dans cette optique-là, pas dans cette préparation-là. Donc j'ai fait une préparation classique, je me suis informée un petit peu sur l'allaitement, voilà, sur les informations assez classiques et sommaires, on va dire, mais j'ai pas forcément été plus dans le détail d'une préparation alternative.
Et pourquoi justement tu t'es pas préparée à cet accouchement sans péridurale ? Tu savais pas peut-être qu'on pouvait t'accompagner ?
Exactement, c'est tout simplement un manque de connaissances et d'informations. Je savais pas que les accouchements en plateau technique existaient. C'était plus, je vivais le moment présent et je me laissais porter sans forcément penser au jour J. C'était plutôt ça.
Ouais. Ouais, alors, et comment s'est passé le jour J ?
Le jour J, donc Victor est né avec une petite semaine d'avance. Les contractions se sont déclenchées naturellement à la suite de la fissure de la poche des os. En fait, la poche s'est fissurée vers 9h du matin, un mardi précisément. Et là, j'ai su que c'était le jour J, ça ne trompe pas. Et j'ai eu la chance que les contractions se mettent en route naturellement dans la foulée. Et ça a été vraiment crescendo. Donc, dans la matinée, tout allait bien. On a pris notre temps avec mon conjoint. On est allé à la maternité aux alentours de 15h dans l'après-midi. Et ça a commencé à devenir difficile vers 18h, 19h. Et c'est vraiment aux alentours de 21h, 21h30, 22h que là, je commençais à être dans le dur. On était tout seul dans la chambre et j'avais vraiment l'impression d'être pas au bout, mais mais vraiment c'était vraiment difficile et je voulais absolument prendre un bain ou qu'on m'ausculte, qu'on me dise où j'en étais parce que j'en pouvais plus. On était tout seul et on savait pas du tout où on en était, ce qui nous attendait. Et comme ce mardi-là, c'était le 24 septembre, faut savoir qu'aux alentours du 24, 25 septembre, ça tombe pile 9 mois après les fêtes de Noël. Donc, les maternités sont remplies, puisqu'il y a tous les bébés des fêtes qui arrivent en même temps. Donc, il y avait très peu de personnel. Personne n'était disponible pour venir nous voir et pour nous dire où on en était. Donc, on a un peu attendu et je me suis sentie seule, en fait. J'aurais eu besoin qu'on soit plus accompagnée. Comme j'étais pas hyper bien préparée à la gestion des contractions, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un soit là, disponible pour nous, pour nous accompagner. Et donc, en fait, rapidement, j'ai demandé la péridurale parce que j'en pouvais plus. Donc, j'étais à 2,5, je demandais la péridurale, on m'a fait patienter un petit peu. J'ai quand même pu prendre un bain pour soulager les contractions. Et rapidement, les contractions sont revenues et on a pu me poser la péridurale. On a passé la nuit comme ça, à attendre au calme. Je reconnais que la péridurale, ça a été sacré soulagement. Mais vraiment, ouais. On est dans une tempête et d'un coup, tout s'arrête.
T'étais pas déçue d'avoir pris la péridurale ? Ouais, ça te
non,
soulageait tellement.
Ouais, complètement. Sur le moment, je me suis dit, si je demande la péridurale, c'est que j'en avais besoin et que ça devait se passer comme ça. Donc on a pu se reposer un petit peu, passer quasiment toute la nuit comme ça. Le travail a avancé, s'est fait relativement bien. Et vers 8h, on nous a installés pour nous dire que ça y est, on allait pouvoir entamer la phase de pousser aux alentours de 8h du matin. Et donc là, j'ai poussé longtemps, presque une heure. Ça a été intense, très fatigant, éprouvant. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans cet accouchement, c'est que c'était une maternité quand même assez orientée une physiologie. Je sais pas comment l'expliquer, mais pendant toute la durée de la poussée, on n'a été que quatre dans la pièce. Mon conjoint, la sage-femme qui était assistée d'une auxiliaire et moi. Et on a vraiment formé une équipe tous les quatre. C'était vraiment un travail tous les quatre. Tout le monde m'encourageait. On était à fond. Personne d'autre n'est rentré dans la pièce pendant une heure de poussée. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'était le dévouement en fait de cette sage-femme. Et elle était à fond, quoi, comme si c'était sa propre vie qui en dépendait. Et ça, mais c'était ça a été un sacré soutien et un moment fort pour nous, parce qu'elle a été remarquable, vraiment remarquable. J'ai été extrêmement bien guidée et accompagnée pendant toute cette phase de poussée qui a été assez éprouvante. Bon, ça s'est soldé par une épisiotomie parce que Victor, encore aujourd'hui, c'est un petit rêveur, donc il est né avec le menton relevé. On dit qu'il naît dans les étoiles, il regarde en l'air en fait. C'est ce qui bloquait sa sortie et ce qui fait que j'ai poussé aussi longtemps. Donc j'ai eu une petite épisiotomie pour le libérer. Évidemment, le moment où ils l'ont posé sur moi, mais c'est un raz-de-marée d'amour, quoi. Je pourrais en repleurer encore quand on pense à ce moment parce que c'est incroyable à vivre, vraiment incroyable. Et j'ai une sensation corporelle ancrée en moi pour toujours, c'est ce petit corps tout glissant posé sur moi, et j'essayais d'entrelacer mes doigts autour de ses jambes pour pas qu'il glisse, parce que c'était une vraie savonnette. Et ça, j'oublierai jamais. Et la première question que j'ai posée, c'est: est-ce que c'est bien un garçon? Parce que je tenais absolument à avoir mon petit garçon en premier. Et voilà comment comment notre histoire a commencé, notre vie à trois a démarré. C'était un moment exceptionnel.
Et tu as décidé de l'allaiter ou pas?
Oui, j'avais vraiment à cœur d'allaiter Victor longtemps. Je voulais vraiment un allaitement long. Je m'étais dit, je me fixe pas de limites, on verra. Et la mise en route, alors en général, c'est assez compliqué parce que je sais qu'il peut y avoir des crevasses, etc. J'ai eu la chance de pas avoir mal, ou très peu. Par contre, Victor ne tétait pas très bien, pas efficacement, et il prenait pas suffisamment de poids. Donc on a réussi à tenir l'allaitement pendant 4 mois de manière exclusive. Et au rendez-vous des 4 mois, la pédiatre nous a dit: bon, là, Victor n'est clairement pas assez gros, il faut vraiment introduire du lait en poudre. Donc c'était clairement ce que je voulais pas entendre, parce que je sais très bien que introduire un premier biberon, on risque de mettre fin à l'allaitement. Et en parallèle de ça, j'ai fait appel à une conseillère en allaitement, exactement au même moment. Mais forcément, les conseils de la conseillère en allaitement et ceux de la pédiatre étaient sur deux planètes opposées.
Ouais.
Là, ça a été un moment assez difficile parce que je le comprends parfaitement. Hein, mon conjoint était un petit peu inquiet du poids faible de Victor. Il entendait les conseils de la pédiatre. Et à l'inverse, il n'avait pas pu assister aux sessions avec la conseillère en allaitement, donc il n'avait que ce que moi je lui reportais. Donc c'était un peu deux discours qui s'opposaient. Rapidement, moi j'ai été d'accord pour introduire ce premier biberon parce que tout ce que je voulais, c'est que Victor aille bien, évidemment. Et du jour au lendemain, Victor a arrêté de téter. Voilà, le drame. Le drame pour moi, mais quand je dis drame, c'est que je pense, là, avec le recul, que c'était clairement une dépression, parce que je pleurais jour et nuit pendant 3 semaines, 1 mois, ça s'arrêtait pas. Comme si j'étais en vrai deuil, comme si j'avais perdu quelqu'un. Ah ouais, ça a été vraiment le coup de massue pour moi, parce que c'était clairement pas ce que je voulais. Donc, il tétait encore un petit peu la nuit, puisqu'on sait que les bébés, dans un demi-sommeil ou quand ils sont endormis, ils tètent beaucoup plus facilement qu'en journée. Donc, je l'avais encore au sein un petit peu. Et j'étais résiliée, j'étais vraiment très motivée à l'allaiter encore et encore. Donc j'ai commencé le tir allaitement. J'ai fait du tir allaitement pendant 2 mois pour qu'il ait mon lait jusqu'à ses 6 mois. Donc, il avait le biberon, mais il buvait mon lait. Et j'ai stoppé le tire-allaitement parce que c'était fatigant. Je m'étais fixé la limite des 6 mois et j'ai stoppé parce que c'était vraiment éprouvant. Et puis, c'était pas l'allaitement que je voulais.
Et comment t'as réussi à remonter la pente quand justement tout ça s'est arrêté et que t'étais au fond du seau?
Avec le temps, je pense. Ouais. Et j'ai vu la différence au niveau de Victor. Victor a pris, je sais pas, il a pris, je dirais 2 kilos en un mois. Enfin, vraiment, c'était plus le même bébé. Quand on regarde les photos avant, après, à 3 semaines, 1 mois d'intervalle, il est passé d'un bébé tout fin à un bébé tout joufflu. Donc, clairement, il avait besoin de grossir et de le voir grossir, ça m'a aussi réconfortée. Je me suis dit, bon, il en avait besoin et c'était la bonne décision, en fait. C'était ce qu'il fallait faire. Et puis, au-delà de ça, alors je sais que c'est pas une généralité, mais il a commencé à mieux dormir. Il était rassasié. Il avait plus faim, donc il a commencé à mieux dormir. On a commencé aussi à le passer dans sa chambre. Je commençais à en voir un petit peu le bout, parce qu'avant ça, il passait toutes ses nuits collé à moi. Je dormais uniquement sur le côté. Il dormait avec mon sein dans la bouche. J'alternais droite-gauche, j'avais mal aux hanches, je dormais plus. J'avais atteint mes limites aussi. Donc, je pense que le fait de peser le pour et le contre dans la balance a réussi à me raisonner et à me faire remonter la pente.
Et comment se sont passés tes premiers mois avec ton bébé? Est-ce que toi, tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
À l'aise dans mon rôle de maman, oui. Par contre, c'est tellement dur, mais tellement dur de se retrouver seule avec son bébé, et notamment les premiers mois, puisque Victor avait faim, donc il pleurait beaucoup. À l'époque, il n'y avait pas encore le Covid, le télétravail, donc mon conjoint était loin physiquement, enfin il était au bureau. Donc souvent, je l'appelais en pleine détresse, en pleine journée, en lui disant « rentre tôt, j'en peux plus, il fait que pleurer, j'y arrive plus ». Donc j'étais à l'aise dans mon rôle de maman parce que j'étais présente, aimante, j'aimais ça et je faisais du mieux que je pouvais. Par contre, c'est difficile de pas pouvoir se laver, de pas pouvoir manger, de pas avoir de relais, de pas dormir parce que la fatigue, ça exacerbe tout. Donc j'ai trouvé ça extrêmement dur, vraiment très dur. Jusqu'aux 5-6 mois, je trouve, d'un bébé, la mise en route est longue et ça peut être éprouvant quand on est seul.
Et alors là, ton deuxième rêve, c'est d'avoir un deuxième bébé rapproché, comme tu le disais, pour rester sur le schéma familial. Donc, t'en as mis en route peu de temps après, finalement?
Oui, en fait, après Victor, on s'est dit que je ne reprendrai pas de contraception. Comme ça avait mis un peu de temps pour Victor, on s'était dit, on verra, en fait, on verra. Et à partir du moment où on s'est dit, allez, là, c'est bon, on essaie vraiment... ça a marché du premier coup. Donc, c'était une super surprise, sauf que Victor avait 11 mois. Quand Alice est née, nos deux enfants n'avaient que 20 mois d'écart. Donc, ça peut paraître peu, mais par rapport à d'autres qui les ont beaucoup plus rapprochés, ça me semblait un écart, en fait, absolument parfait. Donc, Alice est arrivée très rapidement. Elle est venue se loger en moi au bout de la première tentative. Et là, j'ai entamé une deuxième grossesse encore parfaite.
Ouais.
Vraiment, j'ai pas eu à me plaindre non plus. Hormis le poids pris à chaque grossesse, ça, c'est le seul point noir à chaque fois. Sinon, à part ça, vraiment que 9 mois de bonheur et de cohabitation parfaite. Vraiment parfaite.
Et alors, pour cette fois-ci, pour cet enfant-là, tu voulais un accouchement un peu plus naturel, ou en tout cas te préparer à ça?
Tout à fait. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, et de mémoire, je crois que j'avais commencé à me renseigner avant même de tomber enceinte, pour être vraiment prête au moment où il faudrait choisir le parcours, on va dire, le parcours de suivi. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis orientée vers un cabinet de sage-femme qui pratiquait l'accouchement en plateau technique. Donc c'est le cabinet de sage-femme qui loue une salle nature dans une clinique. Donc on va dire que c'est le compromis parfait entre l'accouchement à domicile, où il y a pas de milieu médical quand on passe la porte, et l'accouchement classique en maternité. Là c'est vraiment l'accouchement avec sa sage-femme du début à la fin, dans un environnement sécurisant, dans un cocon, juste avec voilà le conjoint, la sage-femme, et on peut accoucher de manière physiologique et naturelle sans être perturbé par tous les éléments extérieurs d'un hôpital classique. Et donc, je me suis orientée vers cette solution-là. Et donc, pendant 9 mois, j'ai été suivie par 3 sages-femmes différentes qui font partie du même cabinet, donc je les connaissais parfaitement. La seule chose que je savais pas, c'était laquelle serait d'astreinte le jour où j'accoucherai. C'était voilà la seule inconnue de l'équation. Mais sinon, c'était 9 mois de suivi et 9 mois de préparation pour justement accoucher le plus naturellement possible. Donc elles m'ont beaucoup informée sur déjà la physiologie, comment nous sommes faites et comment se passe le parcours du bébé en nous, en fait, tout simplement, la descente dans le bassin et exactement ce qui se passe à chaque étape. On a déroulé ensemble toutes les étapes une à une de l'accouchement, quand on commence à rentrer dans le travail, quand on commence à rentrer dans le travail un peu plus compliqué, la fameuse phase de désespérance, juste avant la poussée, le cercle de feu, voilà, la sortie du bébé, la délivrance. Enfin, vraiment, on a passé en revue toutes ces étapes-là et j'étais extrêmement bien renseignée sur tout ça. Mais en parallèle, elles m'ont conseillé des lectures qui m'ont beaucoup aidée, notamment La naissance en BD de Lucille Gomez. Ça a été une révélation pour moi de lire cette BD. Je l'ai faite lire à Thibaut, mon conjoint, pour qu'il ait justement aussi bien en tête voilà tout ce qu'implique un accouchement naturel, en fait, et quels sont les éléments clés pour pouvoir rester souveraine le jour J, quoi. Avoir toute la puissance dont on a besoin. Et au final, dans un accouchement naturel, quand on prépare quelque chose de physiologique, c'est le conjoint ou l'accompagnant à la naissance qui a un rôle clé, en fait. C'est lui, notre coach, le jour J, il doit être autant préparé que nous, voire plus. C'est lui qui nous booste, c'est lui qui a autant de connaissances que nous, c'est lui qui sait où nous masser, quoi nous dire. Voilà, c'est vraiment lui le relais et je pense que accoucher seul sans cet accompagnant, c'est pas la même aventure non plus. Donc Thibaut était tout autant préparé que moi. On avait vraiment le même niveau de connaissance et d'information pour cette deuxième naissance.
Et là, tu t'es dit qu'effectivement au premier accouchement, ça, quand t'as vu la différence entre toutes les connaissances que t'avais apprises pendant ces 9 mois.
Oui, clairement. Là, je me suis dit, ah oui, en fait, si j'avais su tout ça la première fois, peut-être que j'aurais fait ci, ça, ou pas ci, pas ça. Au final, j'avais tellement aimé mon premier accouchement que je me suis dit, c'est aussi tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je me prépare différemment. Je pense que rien n'arrive par hasard, en fait. Si ça s'est passé comme ça pour Victor, c'est que ça devait se passer comme ça, et en fait, Victor m'a fait grandir, tout simplement, mais ça m'a permis d'être prête pour cette deuxième aventure.
Alors là, le projet de naissance, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a une baignoire? Est-ce que comment ça se passe?
Alors, dans la salle nature, dans la clinique, donc au plateau technique, il y a une baignoire, effectivement, dans laquelle on a la possibilité d'accoucher. Alors, les sages-femmes n'y sont pas forcément favorables. Elles sont OK pour que tout le travail se déroule dedans. Mais au moment de la sortie, elles préfèrent qu'on puisse, qu'on se mette sur le lit ou ailleurs dans la pièce plutôt que dans l'eau. Parce que pour elles, c'est quand même plus simple, en fait, de récupérer le bébé. Alors, je sais plus exactement pour quelles raisons elles préféraient que ça se passe en dehors. Mais en tout cas, si tout s'accélérait, il y avait quand même la possibilité d'accoucher dans l'eau. Si vraiment je pouvais plus bouger, elle me dit bah, « Ok, reste dans la baignoire, si t'es bien, on reste là ». Il y avait aussi un grand lit rond. Enfin, il y a tous les accessoires pour gérer le travail au mieux. Des lianes suspendues au plafond, des petits tabourets. Enfin voilà, tout est fait pour trouver la position qui nous soulage et la position dans laquelle on veut mettre au monde notre enfant. Mais je parle de tout ça, mais je sais pas exactement comment est agencée cette salle de plateau technique, puisque je ne l'ai pas vue.
Puisque ça ne s'est pas passé comme prévu, malgré que tu sois bien préparée.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous.
Alors, effectivement, bon, déjà, un accouchement ne se passe jamais comme on l'a imaginé, comme on l'a prévu ou comme on l'a préparé. Ça s'est révélé une deuxième fois, du coup, puisque, encore une fois, c'était un mardi, mon terme. On était le 15 juin 2021. Donc là, c'est le jour du terme de ma grossesse pour Alice. Et j'ai des rendez-vous prévus pour vérifier où en est le travail. Moi, tout ce que je voulais, c'était éviter le déclenchement. Moi qui voulais quelque chose de pas médicalisé, je me disais non, 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 je ne veux surtout pas déclencher, je veux que ça se mette en route naturellement. Donc, j'étais assez stressée sur ce point-là. Donc, le mardi matin, j'ai une échographie de contrôle pour voir s'il reste suffisamment de liquide dans la poche, pour vérifier les échanges entre le placenta et le bébé. Et voilà, tous les voyants étaient au vert, tout allait bien. Ma sage-femme, l'après-midi, sur mon accord, avec mon accord, a contrôlé mon col. Il était absolument fermé. Voilà, il avait absolument pas bougé. Donc, pas d'éléments qui me rassuraient sur ce point-là. Et la dernière chose qu'elle a vérifiée, c'était des contractions. Donc, elle a posé le monito sur mon ventre. Et puis, pendant une demi-heure, on a contrôlé les contractions. Et en une demi-heure, j'en ai eu 4, je crois. Donc, ce qui était quand même pas mal. Au final, j'avais des contractions régulières, mais je ne les sentais absolument pas. Si j'avais pas eu ce monito, je crois que je m'en serais même pas aperçue. Donc là, ma sage-femme m'a dit que mon corps semblait travailler. J'avais des contractions régulières et normalement, tout devrait se mettre en place naturellement sans qu'on ait à parler de déclenchement. Et s'il y avait besoin, on se serait revu 4 ou 5 jours après pour essayer de trouver des choses naturelles. Elle avait prévu de me faire boire une potion, alors j'ai jamais trop creusé ce que c'était, mais c'était des sages-femmes branchées très nature, physiologie, et voilà. Pas contre la médication, évidemment, mais à chercher en priorité des solutions naturelles. Elle m'avait parlé d'une potion de plante ou je sais plus quoi à boire qui devait avoir un goût assez infâme. Donc elle m'avait dit, bon, on va essayer de pas arriver là pour déclencher l'accouchement, mais normalement, tout va se mettre en route tout seul.
Donc là, tu repars rassurée.
Alors, je repars rassurée, oui et non, parce que j'ai en tête que mon col a pas bougé, que tout est fermé, que voilà, c'est un cadenas verrouillé, et que même si j'ai des contractions, pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre. Et j'ai pas d'autres signes annonciateurs par ailleurs. Donc, le mardi soir, je rentre à la maison. Thibaut doit gérer mes émotions parce que j'arrête pas de lui dire que je vais être déclenchée, que tout est foutu, que j'aurai jamais mon accouchement naturel. Si je suis déclenchée, je sais que les contractions sont beaucoup plus fortes, que je vais pas tenir, que je vais demander la péri. Enfin, bref, voilà. Le drame. Il essaie de me rassurer comme il peut. Le mardi soir, je me souviens que je décide de lâcher prise sur la préparation parce que tous les soirs avant, je faisais des mouvements de ballon. Il me massait dans le bas du dos avec une synergie d'huile essentielle préparée par mes sages-femmes, un truc vraiment spécifique. Enfin, vraiment, on était à fond dans la préparation. Et là, le mardi soir, je me dis, allez, je laisse tout ça de côté. Je me pose sur le canapé, je mange de la glace, on regarde du foot. Truc improbable. Et là, je sens quand même que mon corps contracte. Alors, je le sens parce que je pose mes mains sur mon ventre. Mais sinon, je ne ressens absolument rien d'autre. Donc au final, c'est juste les contractions senties l'après-midi pendant le monitoring qui continuent, qui se poursuivent toute la nuit. Et vers 5h du matin, je suis réveillée et là, je me dis, je les sens quand même, les contractions. Je sens que ça se met en route. Et je pense qu'on a toutes fait ça. En 2 secondes, je télécharge une application qui mesure les contractions, qui les chronomètre. Et là, l'application me dit de partir à la maternité. Je suis n'importe quoi. N'importe quoi. Je ressens absolument rien. D'accord, elles sont un peu rapprochées, mais je ne sens absolument rien. Mais vraiment rien. Donc, je ferme l'application.
Oui, surtout que tu avais déjà connu les contractions beaucoup plus intenses au premier accouchement.
Mais oui, surtout, je me revois morflée complètement pour Victor. Et là, je me dis, mais non, 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 c'est pas possible. Mon téléphone raconte n'importe quoi. Donc, je le pose sur le côté et je me lève parce que je me dis, je suis tellement surexcitée. Que mon corps se mette en route, que impossible de me rendormir. Donc je me lève et là je me dis bon, je le sais, je le sens au fond de moi, c'est sûr, c'est ça y est, ça se met en route. La clé pour un accouchement rapide et naturel, c'est le mouvement, la gravité. Donc là je me lève, je fais 1000 trucs, je lance une lessive à 5h du matin. Je me lève, je prépare les sacs, je fais du rangement dans la maison et vers 5h30, je vais me promener dans le jardin. Donc c'était en plein été. Donc le jour commençait à se lever, c'était vraiment super agréable parce que c'est le petit matin, il fait pas froid, surtout on était à Toulouse à l'époque, donc il faisait vraiment bon. Voilà, j'étais pieds nus dans l'herbe, il y a des oiseaux qui gazouillaient, enfin c'était vraiment un petit matin absolument parfait. Donc je marche dans le jardin et là je me dis bon bah je vais faire des mouvements de bassin. Et pour faciliter la descente du bébé, il faut aussi s'étirer, lever les bras, allonger le dos, allonger toute la colonne. Et donc là, je décide de m'étirer le long de la rambarde de la terrasse. Et là, je perce la poche des os. D'un coup, paf, je suis en chemise de nuit dehors, il est 5h30. Et là, la poche, voilà, se rompt. Et là, je me dis, oula, ok, donc ça y est, c'est vraiment, ça y est, quoi, c'est bon. Et là, je me sens un peu bête, je regarde autour de moi, je fais, non, bon, il est 5h30, il n'y a pas de voisins dans le jardin aux alentours, personne ne m'a vu. Je suis surexcitée, et du coup, je rentre, j'envoie un message à ma sage-femme, à celle qui était d'astreinte. J'avais un petit planning sur le frigo qui me disait qui contacter tel jour. Et donc, je lui envoie un message, je lui dis que, voilà... c'était un quart d'heure après avoir rompu la poche, que voilà, la poche est rompue, que je n'ai absolument aucune contraction, enfin ça contracte mais je les sens toujours pas, j'ai absolument aucune douleur. Et elle me répond OK, on se tient au courant, réécris-moi quand tu as besoin. Et donc moi je rentre, je continue à faire des petits mouvements, je m'active, je me pose pas sur le canapé à attendre. Vraiment, je m'active pour que tout aille vite dans la journée. Je me dis, à midi, il faudrait que j'aie mon bébé dans les bras, ce serait bien. Et surtout, je commence à préparer les affaires de Victor pour la crèche. Enfin voilà, j'essaie d'anticiper son petit sac au cas où on doive le confier à nos amis comme c'était prévu. Enfin voilà, j'essaie de boucler un petit peu toutes les dernières affaires et je réveille Thibaut vers 6h du matin. Je lui dis que bah c'est sûr, c'est bon, c'est pour aujourd'hui, ça se met en route. Il me demande si ça va, je lui dis que oui, super, je ne sens rien du tout. Et à 6h15, on s'était dit qu'on allait réveiller Victor assez tôt quand même pour le préparer, sauf que, chose qui n'arrive absolument jamais, donc Victor avait un lit au sol, sauf qu'il n'en sortait jamais. Et là, c'est le premier matin où il en sort tout seul. Il rampait dans sa gigoteuse. Il est sorti de son lit, comme quoi, je sais pas, il a dû le sentir, je sais pas, c'était surprenant. Il est sorti de sa chambre, sorti de son lit, il a rampé dans sa gigoteuse. On l'a retrouvé tout sourire, donc on s'est préparé comme si de rien n'était, comme si c'était un matin absolument classique. Donc on s'est mis à table tous les trois à 7h15, donc ça faisait déjà une heure que j'avais réveillé Thibaut, que Victor était réveillé aussi.
Et surtout que t'avais perdu les os.
J'avais perdu les os, mais j'avais des mini-contractions, je commençais à peine à les sentir, mais comme des tout petits tiraillements de douleur de règles, pas plus, quoi. On se met à table tous les trois à 7h15, on déjeune, je rigole, mais vraiment tout normal, quoi. Et à 7h30, une contraction qui me coupe presque la parole, quoi, qui me coupe un peu le souffle. Là, je me dis, bois, ça me fait mal. Ça me fait mal et j'arrête de parler et Victor me regarde. Et là, je me dis, bon, non, j'ai pas envie qu'il me voie mal, surtout pas. Ça me tenait à cœur. Je voulais vraiment pas que Victor me voie en plein travail, surtout pas, parce qu'il avait 20 mois, donc il aurait vraiment pas compris, il était tout petit. Et donc, je dis à Thibaut d'appeler la sage-femme pour la tenir au courant. Donc, il lui dit que ça semble s'intensifier. Et elle me préconise de prendre soit une douche, soit un bain pour calmer les contractions. Et elle me dit, on se rappelle dans une petite heure pour faire le point. Ok, très bien.
Vous êtes quand même tous super détendus.
Ouais, tout le monde est super détendu, clairement. Et moi, je fais confiance à ma sage-femme. Et puis, j'ai surtout en tête ma première expérience avec Victor, où ça a duré des heures. Et j'avais surtout très, très, très mal pendant longtemps. J'ai tenu plusieurs heures avant de demander la péri. Donc là, je me disais, bah non, je suis préparée. Ouais. Quoi. Thibaut et moi, on a une boîte à outils bien remplie pour tenir. Ouais. Tenir ce marathon qui nous attend. Et à 7h30, je laisse les garçons à table, ils finissent de déjeuner et je vais prendre une douche. Alors, ça me soulage un peu, mais ça fait pas grand-chose. Donc, depuis cette première contraction qui est survenue à table, j'en ai d'autres dans la douche et elles me font mal. Et je me rends compte que l'eau chaude n'aide pas. Donc, quand je dis que ça me fait mal, je sentais que ça s'intensifiait, mais j'allais vraiment bien. Je sors de la douche et là, je dis à Thibaut de se dépêcher d'emmener Victor à la crèche parce que je sens quand même malgré tout que ça monte en intensité. Et là, je pense que j'ai clairement manqué de précision. J'aurais dû dire à Thibaut, vraiment, dépêche-toi. Lui, il a compris le message comme si je lui disais « Dépêche-toi d'emmener Victor à la crèche pour qu'on soit tranquille, pour gérer le travail sans lui. » Sauf que je lui ai pas été assez explicite, je pense, sur mon ressenti à ce moment-là. Et donc, les garçons sont partis vers 8 heures. Moi, je me suis fait couler en bain. Je me suis dit « Bon, un bain, ça aura peut-être plus d'effet que la douche. » Je me glisse dans la baignoire et là, ouais, ça fait du bien. Donc là, je reste là un quart d'heure, 20 minutes. Je me mets dans ma bulle. J'avais... pas fermé les volets complètement, mais j'étais dans la pénombre, dans l'eau chaude, et ouais, j'étais toute seule. Je commençais à faire mes petits exercices de respiration, de visualisation. Enfin, vraiment, j'étais bien et j'étais dans mon petit cocon. Et les contractions reviennent de plus belle au bout de 15-20 minutes. Mais là, forte, quoi. Je me dis, bon, ok, évidemment, j'ai pas mon téléphone à proximité de la baignoire. Ça fait 20 minutes que Thibaut est parti. Et en plus, il déposait Victor à la crèche et sur le chemin du retour, il devait déposer le sac d'affaires de Victor chez nos amis qui étaient censés récupérer Victor à la crèche le soir s'il y avait besoin. Et donc, je sors de la baignoire, j'enfile des sous-vêtements confortables parce qu'il faisait chaud hein, à Toulouse, mi-juin, il fait déjà très chaud. Et en plus, avec le travail, n'en parlons pas. J'avais très, très chaud. J'attrape mon téléphone pour lui dire « Chérie, t'es où ?» Ça devient dur. Mais là encore, je suis pas très... Voilà. Je suis encore pas très explicite. Ça devient dur. En parallèle, j'écris à ma copine chez qui Thibaut devait déposer le sac d'affaires. Et elle me dit « Oui, il est là, il vient de repartir. » Donc, il était 8h... je sais plus, 8h25 à peu près. Et pendant ce temps-là, sur la route, donc Thibaut est sur le retour, il appelle la sage-femme pour lui dire ça semble s'accélérer, il faut venir à la maison. Ce qui était convenu, c'était que notre sage-femme d'astreinte ce jour-là vienne à la maison, on fait une partie du travail ensemble, et c'est elle qui estime le moment opportun pour partir à la maternité, pour pas y aller trop tôt, pour qu'on reste D'accord. le plus longtemps possible dans notre bulle à la maison, et aller à la maternité vraiment au dernier moment pour passer le moins de temps possible sur place. Donc, il a appelé notre sage-femme pour lui dire de décoller et de venir à la maison. Sauf que notre sage-femme vivait à 40 minutes de Toulouse et que Toulouse, entre 8h30 et 9h du matin, c'est impraticable avec les bouchons. Donc, bon, bref, voilà. Thibaut arrive à 8h30 à la maison. Et quand il est parti à 8 heures, donc il s'est absenté une demi-heure, quand il est parti à 8 heures, j'allais bien, je me glissais dans l'eau du bain, ça roulait. Quand il revient à 8h30, je suis métamorphosée. Je suis plus du tout la même, je ne maîtrise absolument plus rien. Je suis cramponnée à la table du salon, je suis sur la pointe des pieds, je me tords, je me plie et j'ai chaud. Quand il arrive, je me cramponne à son cou, il y a une contraction qui arrive, je me cramponne à son cou. Et là, il me dit... tout est un peu flou parce qu'on sent la panique qui monte, quoi. Il me voit dans un état second. Lui, il sait plus quoi faire. Il sait plus s'il doit appeler la sage-femme, si on doit partir à la maternité. Enfin, voilà. On est complètement perdu, en fait. Il me propose de me suspendre une liane à la rambarde de l'escalier pour me soulager, pour que je puisse m'étirer le dos. Alors, je lui dis oui. Puis, rapidement, je lui dis non. À ce moment-là, moi, je commence à me mal parler aussi. Je prends toutes les valises. Tu mets tout dans la voiture, on part à la maternité. Tant pis pour la sage-femme, on l'attend pas, elle nous rejoint sur place, on part, quoi.
Vous étiez à combien de temps de la maternité?
Alors, normalement, 10 minutes. Là, ouais. Je pense qu'avec les bouchons, c'était plus 20 ou 30 minutes. Donc, il part mettre toutes les affaires dans la voiture. Moi, j'essaie encore de me replonger dans ma bulle, dans mon cocon, pour essayer de me recentrer, en fait, sur tout ce que j'avais appris. Et j'étais démunie parce que j'avais l'impression, avant ça, d'être prête. Et là, je me rends compte que je gère absolument rien, en fait. Je suis dans un raz-de-marée et je suis en train de perdre pied, clairement. J'avais disposé sur la table du salon des petites cartes avec des mantras. J'avais écrit « Chaque vague me rapproche un peu plus de mon bébé »,« Alice sait naître »,« Je suis forte »,« J'ai confiance », voilà, pour me booster. Rien n'y fait, évidemment. À ce moment-là, j'ai juste envie de crier et en fait, c'est des sons rauques qui sortent de moi, mais vraiment, c'est sauvage et ça vient de mes entrailles Et à ce moment-là, je ressens même de la honte. Je me dis, mais non, je veux pas que Thibaut m'entende crier comme ça, c'est pas possible.
Ouais.
En fait, c'est juste incontrôlable et c'est mon corps qui prend le dessus et je me transforme complètement. C'est ultra sauvage et instinctif. Et là, j'ai l'impression de vouloir aller aux toilettes. Évidemment, on sait toutes que c'est pas ça. Donc, j'arrive quand même à aller aux toilettes. J'arrive pas du tout à m'asseoir sur la cuvette, rien. Et là, je comprends qu'en fait, non, on n'a plus le temps d'aller nulle part, que le bébé est là, le bébé arrive. Donc, je suis sur les toilettes et là, je me dis, mais non, mais ce que je ressens là, c'est les sensations que j'avais ressenties au moment où Victor allait sortir.
Ouais.
Et là, je panique, je crie, je dis, Thibaut, reviens, elle arrive, je sens sa tête. Donc là, Thibaut qui revient en panique, je sors des toilettes, il m'enlève, je lui dis, mais enlève-moi mes vêtements. Donc, il m'enlève tout. Enfin, j'avais juste une brassière d'allaitement sur moi, il me restait plus que ça. Et on va dans la salle de bain. En fait, on n'a pris aucune décision à ce moment-là. Tout est instinctif. Je pense que moi, j'allais à un endroit, lui, il me suivait, et je sais pas. Il est allé dans la chambre chercher un grand drap. Je me suis un drap bleu foncé. Petit détail qui marque.
Ouais.
Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on a compris tous les deux que, de toute façon.
Ça allait se faire tous les deux, quoi.
Là, c'était maintenant, et puis c'est tout. Donc, il étend le drap entre la baignoire et le meuble double vasque. Et là, à un moment, mais tellement drôle, c'est qu'il met le drap par-dessus le tapis de la salle de bain. Sauf que c'est un tapis qui n'était pas assez grand pour couvrir toute la surface entre la baignoire et le meuble double vasque. Et moi, dans ma tête, ce que je voulais, c'était que le tapis soit à proximité de la baignoire pour que je puisse mettre mes genoux dessus et m'appuyer sur le rebord de la baignoire. Et il avait mis le drap par-dessus. Je voyais pas où était le tapis. Donc, j'ai pris la tête, le temps de 10 secondes pour savoir où était ce tapis. finalement, elle s'est tombée. Mais c'était tellement drôle quand on en reparle. C'est marrant, cet épisode du tapis de la salle de bain. Comme si c'était le moment. Et finalement, je me glisse dans l'eau de la baignoire qui est encore chaude. J'ai pas pris de décision. J'ai ressenti le besoin et l'envie d'aller dans l'eau. Donc, je me suis mise dans la baignoire. À genoux, avec les deux coudes appuyés de chaque côté. C'était une baignoire îlot, donc il y avait vraiment des bords de chaque côté, en fait, des bords qui me permettaient vraiment de bien me cramponner de chaque côté et d'appuyer mes coudes. Et là, j'ai eu des poussées réflexes. Clairement, c'est le corps qui pousse tout seul. La tête n'est plus là, c'est le corps qui prend le relais. La première poussée réflexe, je la bloque parce que j'ai peur et je comprends pas ce qui se passe et je panique complètement. À ce moment-là, je dis à Thibaut, mais appelle les pompiers, appelle, je sais pas qui, mais appelle. Et on a la sage-femme en haut-parleur à ce moment-là qui me rappelle. Elle était sur la route. Elle me dit, j'arrive, je suis sur la route, quoi. Et là, moi, je lui dis, mais ça pousse, ça brûle. Donc, ça brûle, c'est le cercle de feu. C'est-à-dire que la tête est là, en fait, et elle va passer. Et moi, j'ai juste plus envie de parler. Donc, je dis à Thibaut de raccrocher. Donc, voilà, je veux plus, quoi. Laissez-moi tranquille. Et là, ouais, clairement, je perds pied, je panique complètement. Et Thibaut, mais il a repris, je sais pas, il a gardé son sang-froid, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, tu sais faire. T'es forte, on va le faire ensemble et tout va très bien se passer. Mais il a eu un aplomb, mais dingue, qui m'a redonné mais complètement confiance en moi. Ça m'a reboosté et là, je me suis dit, OK, on va le faire. Et c'est parti, c'est maintenant. Et donc là, la poussée d'après, j'avais ma main et je sentais les petits cheveux d'Alice. Donc voilà, elle était là. Je sentais que sa tête était là, qu'elle allait passer. Et je me dis, ça y est, la poussée, là, je l'accompagne. Donc, j'ai soufflé tout doucement. J'ai même pas poussé, c'est mon corps qui poussait. J'ai juste eu à souffler par la respiration, accompagner la sortie de la tête d'Alice, du coup. Donc, c'est d'abord sa tête qui est sortie. Et elle est restée comme ça, le temps de la contraction suivante, finalement. Et donc j'étais à genoux dans la baignoire. La tête d'Alice qui était là, et je regarde Thibaut, je me dis, regarde, il y a sa tête, elle est là, tu la vois? Thibaut qui me fait, oui, je la vois, oui. Et là, je me dis, bon, la poussée d'après, il faut vraiment qu'elle sorte. Et donc, rapidement, mes contractions étaient hyper puissantes et rapprochées. La contraction d'après, je l'ai accompagnée. Ma main était là vraiment pour l'accompagner. C'est elle qui a tout fait. C'est dingue ce qu'elle a fait. Elle est venue au monde toute seule et nos bébés savent faire. Il faut juste leur faire confiance, en fait. Et je l'ai senti dégager une petite épaule. Enfin, d'abord faire sa rotation, tourner légèrement pour pouvoir dégager ses épaules l'une après l'autre et sortir tout son petit corps en entier. Et je l'ai juste accompagnée avec mes mains, je l'ai remontée à la surface contre moi, et voilà. Et Alice était dans mes bras contre moi, dans l'eau. Thibaut toujours à côté, et là, on s'est regardé. Waouh!
Wow. Ok. Incroyable.
Notre bébé vient de naître là, quoi, dans la baignoire, à la maison. Et c'est comme si pendant 20 minutes, on était pris dans une marée infernale, et là, il y a la, je sais pas, la houle qui s'est arrêtée. Et c'est le calme plat après la tempête, et on est devant notre petit bébé, et on est sous le choc, en fait, finalement, on est sous le choc. Et ça, je l'ai réalisé après, on n'a pas senti la vague d'amour qui nous a envahis à la naissance de Victor, parce qu'on était sous le choc. Et il nous a fallu plusieurs jours, et moi plusieurs semaines, avant de sortir de cet état de sidération, en fait, de réaliser ce qui s'était passé. Et l'amour est venu après, bien sûr, il était là, mais il s'est révélé après. Il a fallu d'abord que j'ai cette phase de voilà prise de conscience de ce qui s'était passé. Et donc, Thibaut m'aide à me mettre dans l'autre sens, dans la baignoire, à m'asseoir, parce que je pouvais pas rester sur les genoux. J'étais fatiguée, donc je me suis mise sur les fesses, je me suis assise, toujours avec Alice dans les bras. Et là, quand je me suis retournée, l'eau s'est teintée de rouge, de sang. Okay. Tout de suite, c'était impressionnant. J'étais dans une baignoire rouge, quoi. C'était un spectacle assez assez surprenant.
Ouais.
Et Alice était toute contre moi, vraiment toute contre moi. Et ce qui était surprenant, c'est que le cordon, je l'ai senti très court. Il était tendu entre moi et Alice à tel point que c'était difficile de la maintenir à la surface parce que le cordon était court, donc il fallait que je la tienne en dehors de l'eau. Mais le cordon était tout tendu entre nous. Et ça, c'est une sensation corporelle que j'oublierai jamais non plus, quoi. Ce cordon tendu qui nous relie, c'était vraiment dingue. Et là, la sage-femme qui nous rappelle, on lui dit, bah ça y est, Alice est là. Donc elle nous dit de la couvrir dans l'eau, de lui mettre un petit bonnet. Donc on lui met son petit bonnet de naissance, on lui met un linge autour d'elle, et on reste là quelques minutes, juste tous les trois dans notre bulle encore, à redescendre un peu sur terre. Et la sage-femme arrive au bout de 15 minutes après la naissance d'Alice. Et juste avant que la sage-femme arrive, juste vraiment au moment où Alice est sortie, j'ai dit à Thibaut, prends une photo. Je lui ai dit, prends une photo. Je voulais absolument garder,
immortaliser
le moment, quoi.
Ouais.
Et quand la sage-femme arrive, donc déjà, moi, je la vois arriver, je fais le soulagement de voir quelqu'un, enfin, quelqu'un qui est là pour nous aider. Parce qu'on sentait, forcément... seule et non assistée dans cette venue au monde dingue. Et la voir arriver, je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon. Je redescendais un petit peu aussi.
Ouais.
Elle a clampé le cordon dans l'eau. Thibaut l'a coupé dans la baignoire. Elle a vidé la baignoire. Ils ont mis Alice en peau à peau dans les bras de son papa. Donc, c'est Thibaut qui a séché Alice et qui l'a gardée contre lui, contre son torse, bien au chaud. Le temps que moi, je puisse vider la baignoire avec la sage-femme. Et au bout de 20 minutes, donc j'étais toujours dans la baignoire qui était en train de se vider. Nouvelle envie de pousser. Donc là, c'est du placenta. Et là, à nouveau, mon corps qui reprend le dessus, qui me dicte de me remettre à genoux. Nouvelle poussée. Les mêmes douleurs qui reviennent. Je me dis, oh non, c'est pas vrai, ça repart. Et finalement, j'ai expulsé le placenta dans la baignoire. J'étais à genoux. La baignoire était vide, donc le placenta est tombé entre mes genoux. C'était à nouveau une scène super impressionnante de voir un placenta. Un placenta, c'est impressionnant, c'est gros. De le voir comme ça, là, c'est assez dingue. Et donc là, la sage-femme, elle a pris le relais sur un peu nettoyer la baignoire. Elle était équipée de la tête aux pieds, et voilà, parce que un accouchement, c'est du sang, absolument du sang. Et ensuite, ce qui est fou, c'est que j'étais en forme, très très en forme, par rapport à mon premier accouchement où j'ai eu une péridurale qui m'a paralysé la jambe gauche pendant des heures et je pouvais pas me lever. Là, je me suis douchée, je me suis rincée, je suis sortie de la baignoire, et voilà, comme si de rien n'était.
Ouais.
Et là, ma sage-femme, pour moi, j'avais pas imaginé ça, mais elle m'a dit, non, on reste à la maison, on va pas à la maternité, on va nulle part, on reste ici, je te fais tous les soins là, et vous n'irez pas à l'hôpital. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, c'est super. Et en fait, on s'est installé dans notre chambre. Elle m'a fait les soins, elle a fait les soins à Alice, et voilà. Et
tout allait bien.
Tout allait bien. Il n'y avait pas de raison de passer à la maternité, et c'était c'est super de pouvoir commencer ce début de vie et offrir ce début de vie à Alice dans son cocon, dans son environnement, chez elle. Mais ça a été merveilleux. Pour elle, ça a été super. Et finalement, la sage-femme est venue tous les jours à la maison pour voir comment on allait et tout s'est très bien passé. Et maintenant, avec le recul, je me dis que clairement, on manque d'informations. Toutes les femmes devraient au moins avoir la connaissance pour pouvoir faire des choix en conscience, en fait, pour choisir clairement l'accouchement qu'elles veulent ou au moins avoir les informations pour être prêtes au mieux. Parce que c'était une aventure vraiment incroyable. Vraiment dingue.
Même avec ton chéri, j'imagine que ça a créé un lien entre vous.
Ça, c'est sûr. C'est clair que c'est assez dingue de vivre ça ensemble. Vraiment, on l'a ressenti tout de suite. On en parlait tout le temps, tous les jours. Et on s'est dit, mais tu te rends compte de ce qu'on a fait? Tu te rends compte de ce qu'on a vécu tous les deux, là? Enfin, c'était... On en parlait tout le temps parce que besoin d'en parler, besoin de réaliser ensemble. Et c'est clair que ce qu'on a vécu tous les deux, c'est tellement fort et puissant que ça soude et ça unit encore plus, ça c'est certain.
Et le petit Victor est revenu quand alors, ce petit chat?
Ouais, le petit Victor. Ah, juste pour revenir juste avant, la sage-femme qui est arrivée pour faire les soins, qui nous demande à quelle heure est née Alice à peu près. Et là, je dis, je sais pas. Et je dis à Thibaut, regarde l'heure de la photo, puisqu'il l'a prise tout de suite quand elle est sortie. Mmh. Et là, Thibaut annonce 8h54 à la sage-femme. Et moi, j'écarquille les yeux et je regarde Thibaut, je suis 8h54. C'est l'heure exacte de naissance de Victor. C'est improbable. Là, je me dis, mais c'est improbable. Les enfants ont choisi de naître à la même heure. Alice a choisi son moment. Et j'ai trouvé ce symbole fort, quoi. Vraiment fort. Et donc, mon petit Victor, pendant ce temps-là, journée de crèche absolument banale et normale pour lui. Finalement, c'est Thibaut qui est allé le chercher le soir comme si de rien n'était.
Ouais.
Et au passage, il est retourné chez nos amis pour récupérer le sac de Victor, raconter l'accouchement à nos amis. Ils sont rentrés à la maison et on était tous les quatre dans notre bulle et on a pu présenter... Victor et sa petite sœur Alice, on a fait les présentations entre nous tous les quatre à la maison de la manière la plus naturelle possible et c'était vraiment fort comme moment, vraiment fort. C'était super de pouvoir faire les choses comme ça.
Est-ce que tu as allaité Alice aussi?
Alors là, oui, forcément, comme ça s'était pas passé comme je l'aurais aimé pour Victor. L'allaitement, je me suis beaucoup plus renseignée. Ça a beau être naturel, ça peut être semé d'embûches. Donc là, j'étais vraiment bien préparée et j'ai tout fait pour que ça se mette bien en route, que ça marche. Et aujourd'hui, je l'allaite encore et tout va très bien. Et Alice a 11 mois, elle fait presque 10 kilos et elle est très en forme. Et non, c'est super, ça se passe très très bien, c'est une très belle aventure. Et Victor, parfois, demande à téter. Ça les a passé blanc. Donc je lui dis, non, mon chéri, écoute, c'est ta petite sœur maintenant, elle est de ton tour. Donc non, l'allaitement, ça roule, et puis on verra jusqu'où ça nous mène.
Vous envisagez de faire d'autres enfants?
Alors là, tout de suite, je dirais non, parce que... C'est dur encore, hein. C'est intense. Des enfants rapprochés en bas âge, c'est vraiment un sacré rythme. Surtout que au niveau des nuits, nous, on est servis. On a des enfants qui, voilà. Alors, si l'endormissement se passe bien, on a beaucoup de réveils nocturnes ou des réveils très matinaux. Mais en ce moment, nos journées commencent à 5h30, donc faut s'accrocher. Donc pour l'instant, on a tendance à dire non. Deux enfants, c'est très bien. Mais on ferme pas la porte à un troisième. On se dit, on verra. Sauf que bon, si troisième il y a, je pense que d'office je vais prévoir un accouchement à domicile.
C'est ce que j'allais te demander, c'est pour ça que je te posais la question.
Mais bon, j'aurais aussi la pression de vouloir qu'il naisse à 8h54, donc ça me semble improbable. Et puis quand je réfléchis, je trouve que là on a un parfait équilibre tous les quatre. On a le schéma familial dont je rêvais. Il y a aussi le fait que... mine de rien, les accouchements, ça a un impact sur le corps. Il faut plusieurs mois derrière pour se ressentir bien à nouveau, se ressentir à nouveau en possession de son corps. Et moi, je perds énormément mes cheveux à chaque fois, mais c'est pas un mythe, quoi. Vraiment, je les perds énormément. Et mes cheveux avaient fini de repousser suite à ma première grossesse, que paf, j'ai accouché d'Alice et paf, je repère tout à nouveau. Enfin, c'est des détails, mais ça, plus bah, les kilos pris, 15 kilos pour Victor, 20 pour Alice, ça fait beaucoup, enfin, tout cumulé. Et j'ai envie de me retrouver, je crois, et juste savourer la vie maintenant avec notre petite famille à quatre. Pour le moment, c'est ma priorité, c'est moi me sentir bien pour que je sois disponible et bien et heureuse avec les enfants et qu'on puisse profiter tous les quatre. Ça, c'est à l'ordre du jour en ce moment.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
La maternité, je dirais que ça m'a appris l'abnégation, le fait de passer après ses enfants. Vraiment, c'est le dévouement, le don de soi, être capable de se dépasser quand on est fatigué, de pouvoir encore tout donner. Surtout avec l'allaitement, c'est quand même malgré tout un investissement. C'est ben voilà, on est disponible pour son bébé et même au-delà de ça, on est épuisé, mais on est toujours disponible. On trouve toujours des ressources en nous pour s'occuper d'eux et pour les aimer plus que tout. Et ça, c'est quelque chose que je soupçonnais pas. Et la deuxième chose, je dirais que ça a changé, c'est la valeur de la vie. Le fait d'avoir des enfants, la vie au global, tout simplement. Donc, la vie de mes enfants, bien sûr, parce que je les aime plus que tout. Mais aussi l'importance de ma vie à moi. Maintenant qu'ils sont là, ma vie a beaucoup plus d'importance. Il faut que je prenne soin de moi. Ils comptent sur moi, quoi. Donc, il y a tout ça. Tout ça qui a changé et ça fait beaucoup.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman cannaise ?
Une maman cannaise, je dirais que c'est de leur faire découvrir toute la beauté de la nature qui entoure toute la ville de Caen et qui jalonne toute la région de Normandie. Vraiment, c'est une région que je découvre parce qu'on est arrivé il y a 5 mois. Donc, mon arrivée ici est toute fraîche. Mais c'est vert, c'est beau, c'est une super région verdoyante et riche de découvertes. Et ce que je trouve chouette, c'est justement de pouvoir montrer toute cette nature aux enfants, que ce soit les terres, que la côte normande qui est merveilleuse. Et ça, c'est vraiment les éveiller à la beauté de la nature. Je pense que ça, c'est super. Et le fait d'être à Caen, ça nous permet de leur montrer toute cette richesse.
Et alors justement, quel est ton endroit kid-friendly préféré à Caen ?
À Caen même, je dirais le manège, parce qu'on y va souvent et que Victor adore. Mais si je devais m'éloigner de Caen, ce serait la nature, clairement la nature. Leur faire découvrir la forêt ou bien les emmener au bord de la mer pour qu'ils patouillent dans le sable. Que ce soit voilà, la forêt ou la plage, c'est vraiment orienté nature.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Alors rien que pour moi, je dirais, c'est reprendre le dessus sur ma vie, sur mon corps. Là, je me remets à fond au sport. Je fais du yoga, donc je prends beaucoup de temps pour moi en ce moment et c'est clairement voulu. Ça fait du bien. Je me retrouve et après ces deux grossesses enchaînées, rapprochées et le rythme qu'imposent deux enfants en bas âge, ça fait du bien d'avoir ce temps pour soi. Et les projets en famille, c'est justement de se reconstruire un cocon ici en Normandie, de réussir à créer notre équilibre de vie et faire grandir nos enfants avec amour, bienveillance et qu'on soit tous bien ici en famille.
Merci beaucoup Marie-Charlotte.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.